Aujourd'hui, dimanche 12 mai, je vais bien. Enfin non, en fait, je vivais pas bien. Un matin, je me suis réveillé en apprenant que Dick Rivers, lui non plus, ne s'était pas réveillé. Plus tard dans la journée, c'était au tour de Jean-Pierre Marial de rester endormi pour toujours. Heureusement, aujourd'hui, pour me remonter le moral, je célèbre la journée mondiale des infirmières. Ah, les infirmières. Attention, rien de graveleux, les amis. Ma maman est infirmière. J'ai un immense respect pour cette profession. Oh, ça, elle en a soulagé des malades, ma maman. Guérie, non, mais soulagée, oui, elle en a tellement tué. Ma mère t'allait la voir pour un panari, elle te donnait 3 semaines à vivre. Et le pire, c'est que ça marchait, les gens tombaient comme des mouches. Bref, je suis pas là pour dire du mal. Bonne journée mondiale des infirmières. Alors au chapitre, oui, nouvelle étrange, il y a quand même Francis Lalanne, tête de liste gilet jaune pour les prochaines européennes. Non mais sérieux, Francis Lalanne quoi? Pourquoi pas Plastique Bertrand? Non, j'en peux plus, moi. Non, n'importe quoi. Détendons-nous un peu, les amis, si vous le voyez bien. On va écouter un peu de musique, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgue.
Ouais, d'accord, ça.
C'est bon, non, hein? Mais ça détend pas du tout. C'est bon, mais ça... Mais en fait, ça me fait angoisser. On va arrêter, j'ai l'impression que quelqu'un est mort. J'ai l'impression que ma mère a repris du service. Arrêtons tout de suite. Allez, passons à quelque chose de plus réjouissant que mes souvenirs de ma maman fossoyeuse. Aujourd'hui est un jour de grande fête pour la chanson française. Oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un très grand monsieur. Les plus beaux implants capillaires de la variété française. Michel Fugain, qui célèbre aujourd'hui ses 77 ans. Bon anniversaire, Michel.
Vous les femmes.
Oh non, c'est le pleureur.
C'est pas le pleureur, c'est le magnifique Rolio Iglesias. Bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche podcastable à volonté. Avec moi, Albert Algout. Comment allez-vous, cher ami?
Je vais très bien. Le printemps palpite, comme mon petit cœur qui palpite de joie d'être en votre compagnie et
vous
de
avez
nos
un
invités.
Très joli pull. Vert amande. Il est coquet. Et nous avons deux invités de prestige qui, en ce dimanche 12 mai, sont.
France Inter. Vous les femmes. Daniel Morin.
Vous avez un petit peu entendu sa voix, elle a dit c'est la pleureuse en parlant du noble Rolio Iglesias. Chanteuse, elle aussi, auteure, compositrice, actrice, activiste, militante. C'est une diva qui a fait canter les hommes d'État les plus influents. Selon le journal anglais The Guardian, elle est l'une des 100 femmes les plus influentes du monde. Elle était venue nous voir déjà en juin dernier en compagnie de 16 co-signataires du livre « Noir n'est pas mon métier ». Angélique Kidjo, comment allez-vous?
Moi, je vais super bien, surtout quand c'est vous qui me présentez.
Vous êtes formidable. Depuis tout à l'heure, vous êtes arrivé en avance. Il y a une ambiance dans ce studio. Et déjà, la dernière fois, non, on avait passé un super moment.
Absolument, la vie est trop courte. On se souvient de bons moments. Les mauvais moments, je n'ai pas envie d'en vivre.
Alors, vous venez aujourd'hui pour nous parler d'un très bel album, l'album Célia. C'est un album hommage à la chanteuse cubaine Celia Cruz. Il est sorti il y a 3 semaines chez Universal Music, c'est ça?
Exactement.
Alors vous allez nous dire pendant toute cette émission qui est Celia Cruz et que représente la salsa. Car c'était la reine de la salsa, c'est ça?
Absolument aussi.
On en parle tout à l'heure. Et à côté de vous, écrivaine, conférencière, mais surtout exploratrice au service du mythique National Geographic, ou National Geographic. Elle a déjà traversé à pied le Canada.
Il faut la laisser dire ça, parce que là, tu...
J'ai peut-être le confier, oui, bon, vous avez raison. Elle a déjà traversé à pied le Canada, les États-Unis, les déserts australiens, une partie de la Chine, la Cordillère des Andes, la Nouvelle-Zélande, et j'en oublie sûrement. Elle marche seule, non pas pour fuir, mais pour se connecter à l'essentiel, c'est elle qui le dit. Sarah Marquis, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Mais en pleine forme.
Oh, ça se voit. Alors, dès le début, même avant de commencer cette émission, c'était parti, il y avait des atomes très très crochus entre vous et Angélique.
Ah ben oui, mais il peut qu'en avoir entre deux femmes comme nous.
Exploratrice, chacun à votre manière.
À notre façon, exactement.
J'ai réveillé le tigre chez Michel Lafon, c'est paru le 25 avril dernier. Le tigre, c'est le tigre de Tasmanie.
Exactement, ce fameux personnage mythique qui hante les forêts de Tasmanie.
Alors vous avez traversé la Tasmanie, c'est du sud.
Alors
au nord.
Sud au nord, exactement.
Du sud au nord, vous avez failli laisser votre peau.
Voilà,
on peut le dire.
On peut le dire.
On peut le dire. Ah non, mais carrément. C'est un livre qui est impressionnant. En fait, c'est un peu comme une quête où on a l'impression d'être plongé 400 ans ou 500 ans en arrière et on vous voit évoluer là-dedans parce que la forêt est plutôt dense et on se demande si vous allez laisser votre peau. On va y revenir, bien sûr, tout au long de cette émission.
La mort rôde.
La mort rôde de plusieurs façons en plus. Alors la grande question est, on ne va pas y répondre évidemment, est-ce que Sarah Marquis a trouvé le tigre? On verra tout à l'heure. Alors voilà une présentation un peu sommaire, j'en conviens les amis, pour mieux vous connaître, mesdames, mesdemoiselles, je vais laisser la parole à un ami autoritaire, mais juste, c'est à vous, maréchal.
Salut Morin, oui. Les hommages, vous les femmes, et garde à vous les hommes,
oui.
Et repos tout le monde.
Vous me semblez de fort bonne humeur, Marie.
Ah, vous commencez à bien me connaître, Morin. Eh bien oui, je suis de très bonne humeur.
Pourquoi donc ?
Je suis même ivre de bonheur. Pourquoi donc ? Ivre de bonheur.
Dites-moi.
De rencontrer vos invités, mesdames Kidjo Angélique et Marquis Sarah, avec lesquelles j'ai, ou plutôt j'avais, de nombreux points communs.
Des points communs, Maréchal.
Affirmatif. Eu égard à la tonalité féministe de cette émission, je ne dirais pas que je les admire parce qu'elles en ont dans le froc.
Non,
mais surtout, c'est parce que vous me rappelez, mesdames, la période la plus héroïque de ma vie. En effet, Sarah Marquis, votre traversée en Tasmanie de zones inextricables, dans une nature hostile, étouffante, terrifiante, hantée par des animaux inquiétants, une descente aux enfers m'a ramené plus de 60 ans en arrière.
C'était pas en 54 en Indochine ?
Mais ferme ton clapet, Morin, c'est moi qui raconte ma life. C'était en 1954, en effet, seul survivant de la défaite de Gang Bang Phoc, j'avais été enfermé par les Viettes dans une cage en bambou, plongé dans un cloaque qui grouillait de sangsues, trois fois plus grosse que celle de la Tasmanie, Madame Marquis. Quand je me suis évadé, pour survivre, j'ai récolté du miel de frelons asiatiques en grimpant des palmiers dont je retombais, dardé de piqûres affreuses, le visage plus boursouflé encore qu'une pizza calzone. 10 jours après, alors que j'arrivais à Saigon, les rayons de miel que j'avais réussi à dissimuler dans mon pantalon se mirent à bruisser. Ça bourdonnait là-dedans. Des larves de frelons avaient essaimé. Mon froc était devenu une véritable ruche, pas de quoi rire, une véritable ruche ambulante.
Oh, Angélique.
Sans parler des sangsues.
Oh non.
Pour demander de l'aide, j'entrais à l'heure à l'œil de bronze, célèbre cabaret fumerie d'opium.
Et alors ?
Et alors ? Sur la scène se déchaînait un orchestre de salsa. Congas, bongo, timbales, cuivre, flûte, violon. Avec des choristes qui ondulaient du croupion. Et une chanteuse extraordinaire qui vous ressemblait comme deux gouttes de rhum, chère Angélique. Et dans la salle, ça dansait, chaloupait, tanguait, mambo, cha-cha, bomba, rumba, bougalou.
Et alors ?
À cause des sangsues et des frelons qui me dardaient le fondement, le corps en feu, secoué de spasmes, je me suis jeté sur le dance floor et je me suis mis à me trémousser, m'agiter, gigoter, comme pris de transe.
Et alors ?
Et alors, t'es con ou quoi ?
Ah bah, excusez-moi.
Je suis devenu danseur de l'orchestre sous le nom d'El Ganacho. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois, car là, je dois vous quitter. Bonne émission.
Merci Maréchal, on en sait beaucoup plus maintenant sur nos deux invités, deux prestiges, Angélique Kidjo et Sarah Marquis, deux exploratrices un petit peu à leur façon. On va le découvrir tout au long de cette émission. Vous êtes sur France Inter, vous êtes bien.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no nace solo, siempre hay alguien. Like
disfrutar.
Hay que vivir cantando. Carnaval.
La vida es un carnaval.
Hay que llorar.
Todo por la voz cantar.
Carnaval.
Ay, señores. Todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca está solo, Dios está con él.
C'était Angélique Kidjo, La vida es un carnaval. Est-ce que j'ai bien prononcé, Angélique?
Oui, tout va bien.
Ok, ça va.
Vous, les femmes?
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui? Les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Alors par ailleurs, ce titre, La vida es un carnaval, c'est le prochain hymne de la fête de la musique, si je ne m'abuse.
Absolument.
C'est ça, ça a été choisi. Alors est-ce que ça a été choisi par vous, Jean-Jacques Lang?
Mais non, c'est celle de mon cousin Jack,
Jack
qui a tenu à initier un geste artistique fort en faisant résonner un air arc-en-ciel aussi festif que fédérateur, puisqu'il fera danser, se déhancher, bouger, swinguer, bougeler, zouker, chalouper, se dandiner, bref, que des trucs en haie, tous les toffeurs et les toffeuses, les go-go dancers et les salseros, dans une communion poétique, là je reprends le communiqué, dans une communion poétique universelle. C'est chier ce que je viens de dire, ça renvoie.
Oh, c'est magnifique.
Bien, Zouk Love.
C'est Zouk Love et c'est...
Non, mais il prend l'accent, il est super. Hein.
C'est exactement le communiqué de Monsieur Jack Lang. Voilà.
C'est exactement
à quelques mots près.
À quelques mots près.
Mais, bon. Mais c'est, il a raison.
Ben bien sûr.
On va faire
rendez-vous le 21
monde.
Juin. Rendez-vous Absolument. Le 21 juin pour la fête de la musique. Avec nous, Sarah Marquis, exploratrice au National Geographic, qui est après avoir traversé...
non, qu'est-ce que t'as dit là? Répète.
J'étais sûr, j'allais me faire descendre. On dit comment?
Explorer in National Geographic.
Explorer National Geographic.
J'ai l'impression d'être... Il a fallu 25 ans pour pouvoir le dire quand même.
En plus, il parle couramment anglais.
Vous n'êtes pas aussi
exploratrice dans un grand journal d'exploration qui, après avoir traversé la Tasmanie du sud au nord, raconte son périple dans J'ai réveillé le tigre chez Michel Lafond. Présente également Angélique Kidjo pour son album Célia. Album hommage à Célia Cruz, la reine de la salsa, c'est chez Universal Music. Angélique Kidjo en tournée qui sera à Paris au Bataclan dans deux jours, le 14 mai, à Toulouse, le 16 juin, au festival Rio Loco. Une tournée qui passe aussi par Aix-en-Provence, Coutances, Crozon, c'est en Bretagne, Marcillac également. Une tournée aussi qui passe par l'étranger, en Angleterre, à Londres, la Norvège, les États-Unis et l'Allemagne.
Je voulais dire une chose, moi j'ai vu Angélique pour ce concert à Vic-Fezensac. Je salue au passage mes chers amis de Vic-Fezensac dans les arènes. Et vous avez mis le feu. Allez voir Angélique en concert parce que c'est tout à fait remarquable. Et puis, Célia Cruz, c'est plus que très, très bien servi. C'est magnifique.
Merci
c'est
beaucoup.
Un concert extraordinaire.
Merci beaucoup. Et merci à tout le staff de Vic-Fezensac.
Ah, ils font un boulot formidable.
L'accueil a été super génial et ça a fait plaisir. Ça a contribué à un bon concert, en fait.
On va revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos parcours brillants, mademoiselle. On commence par vous, tenez, on y est, Angélique. On commence en 1989 à l'Olympia. C'est la première partie de Myriam Makeba. On se sent comment quand on fait la première partie de Myriam Makeba? Ah, pression, pression.
Quand on rencontre son idole la première fois, je préviens tout le monde, c'est dur. Ouais. Faut avoir le cœur bien accroché. Et quand on est en train de faire sa balance et qu'elle marche et qu'elle vient sur scène, et elle est là, on peut plus chanter.
Ça donne de la force ou ça vous a bloqué
et puis
un peu
dit,
et après ça...
Elle m'a dit, allez, vas-y ma fille, vas-y. Alors là, j'ai dit, ah bon, d'accord, mais je vais péter tout alors.
Je vais tout péter. Tu rentres tout de suite dans l'ambiance, tu arrives tout de suite à te mettre dans l'ambiance.
Ah, moi, j'adore la scène. J'ai commencé ma carrière sur scène. Il n'y a pas d'endroit où j'aimerais être mieux que sur la scène. Pour moi, c'est le paradis sur terre. Et quand je suis sur scène, il y a une phrase que ma maman disait tout le temps. Et il m'a fallu du temps pour l'absorber, me l'approprier. Elle disait toujours, avant de monter sur une scène, il faut être prêt à être nu spirituellement. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur la scène, c'est un partage constant. Il faut être dans la générosité et dans la lumière de ce qu'on fait. Et le public le sent et le public le donne. Du moment où j'ai compris ça, monter sur scène n'a plus jamais été un stress pour moi.
Plus jamais un problème.
Ah non, jamais plus.
Vous, Sarah Marquis, on a pris la date pour commencer, la date de 2000. C'est la Pacific Crest Trail, c'est la première traversée.
Voilà, je vais partir du Canada et je vais traverser tous les États-Unis de l'Ouest jusqu'à la frontière mexicaine. J'avais juste aucune idée de ce que je faisais. Et ça reste pour moi l'expédition la plus mythique, puisque tout ce que je faisais était nouveau et j'étais complètement inconsciente de. D'ailleurs, voilà, et j'ai vécu ça live puisque j'étais arrêtée par le FBI. On a sauvé avec d'autres personnes sur ce trek une autre personne qui était à moitié morte au milieu d'une rivière. Enfin, j'ai eu toutes les histoires possibles du monde sur ce trek. D'ailleurs, les gens avec qui on a eu la rescue, le sauvetage, on est toujours amis aujourd'hui. On se retrouve toujours une fois par année.
Ça crée des liens, j'imagine.
Voilà.
comment on devient exploratrice ?
Ben comme ça.
Comme ça.
Voilà, un pas après l'autre. Et puis, il faut rêver surtout. Il faut rêver. Moi, j'ai ça au fond du cœur. J'ai ça depuis toute petite. J'ai grandi au Jura suisse, en fait, dans le nord de la Suisse. Et on n'avait pas beaucoup d'argent dans la famille. Et ce qu'on faisait, eh bien justement, on allait pêcher, chercher des champignons. On marchait tous les dimanches. J'ai vraiment eu horreur de marcher quand j'étais gamine. Je pestais tout le long. Et j'ai embêté toute la famille avec ça. Et j'embête encore toute la famille au sujet de la marche, puisque je veux vraiment marcher partout.
Parce que là, vous avez fait, en gros, vous avez fait le tour de la Terre à pied.
Voilà, alors j'ai fait le tour de la Terre à pied, après j'ai arrêté de calculer, ça ne m'intéresse pas vraiment la distance, c'est ce qui se passe.
C'est facile une fois qu'on l'a fait.
Non, mais c'est vraiment, moi ce qui me passionne, c'est justement la curiosité, la découverte, les animaux, ce qui s'y passe.
Et toute seule.
Ah, oui, le silence est nécessaire pour ce genre d'activité. Donc avec un compagnon de route, ça parle trop.
Ça parle trop, les compagnons. Vous comprenez, Angélique, cet appétit de vouloir découvrir.
Complètement.
Et seul.
Complètement, parce que si on ne se découvre pas seul, on ne se découvre pas. Quand on est avec quelqu'un, on passe son temps à parler et on ne parle pas seul forcément de soi. On n'est pas concentré sur soi pour voir ses limites. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps être dans le silence pour se connaître et pouvoir se mettre les choses en perspective. Donc quand elle décide de marcher, si elle marche seule, elle avance plus vite en tant qu'être humain. Elle apprend beaucoup. La nature est une école dangereuse et excitante.
Angélique Kidjo, en 2003, le concert pour Nelson Mandela, tout simplement, voilà. À Cape Town.
Are you ready to sing with me?
En toute simplicité.
So we all gonna sing together blessings for Africa and for all the humanity. Are you ready? So you're gonna sing this. Ashe mama, ashe mama, Africa. Ashe mama, ashe mama, Africa.
Quel souvenir. Irrésistible, irrésistible, Angélique.
Ouais, ça me ramène à ma première rencontre avec Nelson Mandela, justement pour ce concert-là, parce que pendant sa présidence, il le disait, parce que les journalistes lui disent, mais Monsieur Mandela, comment est-ce que vous avez pu passer à côté de cette épidémie du SIDA ? Il a dit, quand je suis arrivé au pouvoir, il y avait tellement de choses à régler. Je voulais tenir le pays ensemble et... Il a avoué devant les journalistes, a fait son mea culpa en disant « Je suis désolé, j'ai pas fait attention à ça. Et maintenant que je ne suis plus président, je veux consacrer le reste de ma vie à essayer de faire quelque chose. » Donc il a monté une fondation qui s'intitule 4664. Et c'est 4664, c'est le numéro de cellule à Robben Island, où il a passé beaucoup d'années de sa vie. Et le jour avant le concert, on a été tous à Robben Island où on était tous dans sa cellule. Quoi. On rentre dans cette cellule, on se dit, mais comment est-ce qu'un être humain de cette magnitude... Moi, je suis petite, déjà, je me sens très claustrophobe, rien qu'à rentrer dedans.
Enfermé, coincé. Oui.
Et lui, il y a une fenêtre, une porte, un évier, pas de lit, une couverture fine comme ça, malgré les chaussures de marche que j'avais, les chaussettes, j'avais les pieds glacés. Comment un être humain a pu vivre là et sortir de là sans haine? Et c'est ça qui est assez intéressant et aussi fantastique, parce que nous étions tous, autant que nous étions dans cette cellule-là, on regardait la cellule, on le regardait, et puis on n'arrivait pas. Et puis il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait différentes émotions. Il nous a tous regardés, il nous a dit... Ce que vous ressentez, je suis passée par tous ces sentiments, toutes ces émotions en passant ma vie ici. Mais il y a une chose que j'ai compris devant cette fenêtre-là, c'est que quand quelqu'un vous fait du mal, si vous ne pardonnez pas la personne vous détruit. Moi, c'est dans le pardon que je me suis reconstruite ici, parce que j'ai toutes les raisons d'être en colère. J'ai toutes les raisons de sortir de prison et mettre le pays à feu et à sang. Mais pour quel but? Si on n'a plus de pays, pourquoi on s'est battu? Et ça, c'est... Ouf. Je suis sortie d'un gym, je me dis, toi qui as la rancune facile, et maintenant c'est toi.
Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire quand on rencontre Nelson Mandela?
Mais moi, je lui ai parlé, je lui ai dit merci d'être un exemple pour moi en tant que femme africaine. Et merci d'avoir été cette personne qu'on n'espérait pas qu'un noir serait. Parce que les idées reçues qu'on a sur les noirs, nous sommes des sauvages. Comment est-ce qu'un sauvage peut comprendre le pardon? Et il m'a dit, je n'ai rien fait. Vous tous, vous faites. Nous sommes tous en train de faire que le monde vive mieux. Et c'est ça, Nelson Mandela, il a cette capacité. Il peut être entouré de milliers de personnes et il vous parle. On a l'impression qu'il crée une bulle et que vous êtes tous les deux. Et il écoute vraiment les gens et il répond vraiment. Je crois que ça l'a épuisé à la fin, en fait. C'est un être humain qui me rappelle que la bonté n'est pas ringard, comme les gens veulent nous faire comprendre, que la bonté est quelque chose de fondamental pour que nous gardions notre humanité.
T'as compris, Albert?
Ouais.
Ok, merci. Ça, on passe à vous, on passe en 2003, c'est 2003 également, comme l'expérience d'Angélique. Mais vous, c'est alors une traversée, attention, qui vous fait écrire votre premier livre, c'est la traversée des déserts australiens, 17 000 kilomètres en 17 mois.
Pouf, 14 000 en 17 mois, ouais.
14 000 en 17 mois, hein, je vous donnais un peu plus de distance.
Non, chaque kilomètre
compte, chaque pas compte.
Chaque pas compte.
Si j'ai bien compris. Alors racontez-nous cette expérience, pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre là-dessus? On vous l'a demandé, c'est une commande, il faut que je le fasse partager.
C'était un deal que je me suis promis, je me suis fait une promesse en fait. Donc j'ai commencé au centre de l'Australie, à Alice Springs, et j'ai fait tous les déserts et je suis partie à l'est et je suis revenue à l'ouest. Alice Springs, c'est vraiment une ville au centre, une petite ville au centre de l'Australie. Et en retournant en fait sur Alice Springs, quelques temps avant l'arrivée, eh bien j'ai collapsé sur une dune. Vraiment, j'ai fait blackout sur une dune, déshydratation, ouais. Ça faisait des mois et des mois que je tournais avec 3 litres d'eau alors que je dois en absorber 7 ou 8. Et mon corps s'était habitué jusqu'au moment où il ne s'est plus habitué. Mmh. Et je me suis réveillée au bord d'un feu. Enfin, j'ai repris conscience au bord d'un feu. C'était des gens parlaient. Puis je trouvais que c'était normal. Et j'étais bien et... Et là, il y a des gens qui ont commencé à me parler et c'était le début, en fait, de ma vie avec les aborigènes. Et j'étais adoptée par une famille, enfin, une famille de femmes, en l'occurrence. Mmh. J'ai des sœurs, j'ai ma mère qui, en fait, chez les aborigènes, c'est les femmes qui tiennent,
qui tiennent
la baraque. Et puis, vous recevez le nom de votre maman, pas de votre papa.
D'accord.
Voilà. Et dans mon nom, il y a le nom de ma grand-mère, de ma mère. Et il est long comme ça long. Et puis, j'ai vécu avec eux un petit moment. Et puis, j'ai appris à pêcher et chasser avec eux. J'ai appris à me nourrir. J'ai appris à vivre là. Et puis, un matin, une de mes sœurs qui a un sens de l'humour incroyable. Alors, ils ont un sens de l'humour incroyable. Alors, ils baragouinent un peu d'anglais. Hein. Mm-hmm. Et puis, elle me dit, alors, comment tu te sens ce matin, Sarah? Puis, je lui dis, ben, ça va bien, ouais, merci. Et toi? Non, mais vraiment, raconte-nous. Je lui dis, ben écoute, ça va, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ah non, mais quand tu étais quand même mariée hier soir. Ah. Je lui dis, comment ça, quoi? Wow. Et là, t'as le sang qui va beaucoup plus vite, t'as le cœur qui s'accélère. Il me dit, ah ben on va te montrer ton mari, ça. Et là, je connaissais pas cette petite culture locale qui dit qu'une jeune femme ne reste pas seule dans une communauté. Aïe. Et on va la marier à la personne la plus âgée du groupe.
Comme ça, les petits jeunes
restent tranquilles. Et j'ai découvert mon mari, Georges, qui était sous un arbre en train de peindre, qui était magnifique, avec une barbe blanche magnifique. Et puis, il n'a pas beaucoup bougé de sous l'arbre, à mon avis.
Vous seriez souvenu.
C'est un bon mariage, ça.
Non, mais oui.
T'as un vieux qui ne peut plus rien faire.
Et voilà.
Tu peux te barrer quand tu veux.
Mariage tranquille.
Mais attention. Mais pas du tout. C'est que je suis en charge de lui chercher à manger. Je dois partir chasser pour lui donner
à manger. Ah, mais il a qu'à crever.
La tête d'Angélique Kidjo. Si c'est comme ça, je m'en vais.
Oh, pas question.
C'est la révolution, hein.
Ah, non, ça va pas. On est la casse de veau, tu me
voilà. Donc, vous avez été chercher à manger.
Et puis, donc, j'ai vécu avec un petit moment. Et puis, à un moment donné, la question se posait, mais j'allais mieux, donc, bien entendu.
Alors, et les enfants, alors?
Non. On n'en était pas là. Mais je me suis posé la question, mais c'était tellement en harmonie, en fait, avec la nature. Et c'était tellement, ça rentrait tellement dans mon schéma que après tous ces mois à dormir sur la terre, et j'ai ressenti vraiment leur capacité à comprendre la nature. Mmh. Et j'ai vécu la même chose et je me disais, mais je reste. Si je pars d'ici, il faut que j'en parle. C'est ma mission. Je peux pas. Soit je reste ou soit je pars. Je dois prendre une décision.
Alors ?
Et je suis partie. Mais quand je suis partie, quand j'ai fait mes premiers pas, je me suis dit, je dois en parler. Et j'ai choisi l'écriture. Et puis, je suis montée sur une scène. Alors, je suis pas aussi douée que toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'étais pas toute seule, puisque sur scène, j'étais toujours accompagnée de mon chien Joe, qui est justement le personnage que je lui ai sauvé la vie durant cette expédition. Mmh. Et c'est avéré que c'est un moitié de dingo, moitié de chien sauvage, complètement fou. Et on s'entendait bien, parce qu'on était les deux un petit peu... un petit peu libres dans la tête.
Ah ben, voilà, c'est ça.
Voilà, Sarah Marquis qui a un côté un petit peu animal, et Joe qui avait un côté un petit peu humain. C'est pour ça que vous étiez,
bien trouvés.
Mais on est tous un peu fous, moi. L'être humain qui n'est pas fou, il n'est pas normal, hein.
Moi, je crois qu'elle est bien connectée à son animalité aussi.
Ah ouais, moi, j'assume totalement.
Vous, Sarah Marquis, en 2010, c'est le départ, le grand départ pour une expédition qui va durer 3 ans. Explore Asia, 3 ans d'aventure, mais ça n'en finit pas.
Ça n'en finit pas.
Ça n'en finit pas.
Et c'est fou parce que quand on part pour une aussi grosse expédition, une aussi grosse logistique d'expédition, avec des je vais traverser la jungle, du désert froid, je vais descendre à moins 30 degrés et voire plus. Il y a une grosse logistique derrière et surtout le corps ramasse énormément dans ces décors extrêmes. Et puis il faut être prêt à chaque fois à réagir avec des choses différentes. Et ça n'a pas été facile.
Et en solitaire toujours celle-là ?
Toujours en solitaire. Toujours en solitaire. Voilà. Et là j'ai laissé Joe à la maison.
Vous êtes quand même folle. Partir pour 3 ans.
Voilà, mais on ne sait pas au début que c'est 3 ans.
Ça
devait être 2 ans au début.
3 semaines.
Ça devait être 2 ans. Mais je pense que ça, c'était vraiment la grande aventure. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais devant la carte monde et puis je me suis laissée emporter par mes rêves. Je voyais le lac Baïkal, je rêvais du lac Baïkal. Après, j'avais le désert du Gobi. Mm-hmm. Et je me disais, mais quelle magie ce désert, la Chine. Plus je descendais, plus le Laos, la Thaïlande. Et puis après, un petit peu de bateau, puisque je rêvais d'arriver en Australie dans un cargo, en fait. Mm-hmm. C'est ce que j'ai fait. J'ai embarqué dans un cargo et avec peut-être la partie la plus angoissante de mon trip avec 23 mecs dans un équipage. J'étais la seule passagère.
Et ce mariage, ça s'est passé comment? C'est votre mari, il est là-bas près du conteneur.
J'en ai un dans chaque pays bientôt. Puis après, la traversée de l'Australie pour rejoindre mon petit arbre, en pays connu quand même. Malgré les hautes températures, les crocodiles et compagnie, j'étais avec plaisir que je retouchais.
Oh my God.
J'arrivais sur la terre australienne.
Le désert de Gobi, c'est comment?
Ben, c'est un endroit que je conseille à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a, dans le désert de Gobi, il y a des léopards des neiges, mm-hmm. il y a un ours du Gobi, mm-hmm. il n'y en a plus que quelques exemplaires. Mm-hmm. il y a des bouquetins, il y a une faune sauvage qui est impressionnante parce que pour un œil qui n'est pas aiguisé, quand on arrive dans le désert du Gobi, il n'y a rien. Mm-hmm. C'est gris, c'est pas joli. Il y a des dunes par endroits qui sont magnifiques, mais à part ça, c'est de la caillasse.
Mais de la rocaille.
Rocaille-caillasse.
C'est le contraire du Sahara, quoi.
Complètement. Et par contre, plus on est dedans, plus on rencontre cette magie, plus on voit les rochers bouger. C'est pas les rochers qui bougent, c'est les animaux qui commencent à se déplacer. Et là, alors, il y a une vraie magie qui s'installe. Et en dormant sur la terre, eh bien, j'arrive à devenir une espèce d'énergie qui se mélange à la terre. Alors, j'ai un moment magnifique dans le désert du Gobi, en l'occurrence, après des mois de traversée. J'arrive, un matin, je me réveille, j'étais mal placée avec ma tante, il y a un vent fou dans ce désert du Gobi, qui s'arrête jamais. Et je me réveille le matin et je suis plus moi.
Comment ça ?
Je suis le sable, je suis le vent, je suis ce qui m'entoure. Je ressens ce qui m'entoure en tant que tel. Mmh. J'ai perdu mon identité comme un espèce de petit glaçon qui fond au soleil. Et je suis ce qui m'entoure. J'ai fait un avec la nature.
Ça vous arrive ce genre de sentiment aussi, Angélique Kidjo?
Ah oui, quand on chante, quand on est bien, quand on a la chanson.
On est tout le monde.
On est avec le public et en même temps on est seul parce qu'on est complètement pris par la musique et ça vous possède tellement que tous vos sens sont au service de la chanson que vous chantez à ce moment-là. Et quand vous ouvrez les yeux, il y a des gens devant vous qui ont des larmes parce que vous donnez tout en fait. Et c'est ça qui est difficile pour certains artistes. Cette nudité spirituelle, c'est votre vulnérabilité. Il faut être en mesure et être prêt à être aussi vulnérable parce qu'il n'y a pas de filet. C'est-à-dire rien ne vous récupère. Il n'y a que vous qui pourrez revenir en vous et vous reprendre et dire, bon voilà, je suis
se recentrer,
se recentrer et continuer. Et c'est ça qui est incroyable dans la spiritualité humaine. Ce n'est pas lié à une religion, c'est par rapport à nos sens. Quand on laisse nos sens s'exprimer et quand on voit en l'autre quelque chose de fantastique, même si on ne sait pas ce que c'est et qu'on y va, on va vers cette chose-là.
Alors pour rester dans les petits événements où va chanter Angélique Kidjo, il y a le 11 novembre dernier, la cérémonie des 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale à l'Arc de Triomphe avec une flopée de chefs d'État. C'est une chanson particulière, ça, en plus.
Oui, c'est une chanson de Bella Bello, qui est une chanteuse du Togo. Et quand j'étais gamine et que j'ai entendu cette chanson-là, ça m'a pris à l'âme. Donc, ça fait partie de ces chansons-là qu'on n'a pas besoin d'autorisation. Ça vous colle à la peau et vous devez la chanter. C'est une chanson vraiment de prière, de patience, de beauté, de spiritualité, où on demande, en fait, qu'est-ce que je demande dans cette chanson ? Qu'on remercie la nature, qu'on remercie le fait qu'on soit vivant tous les matins quand on se réveille et d'apprendre qu'une vie est précieuse et que si on veut vivre ensemble, il faut vivre en paix. Et en écoutant la chanson, je pensais à ce qu'elle avait dit tout à l'heure avec ses sens. Je pense que ça devrait être absolument obligatoire pour tous les chefs d'État du monde entier d'aller passer au moins 6 mois tout seul, sans garde, sans rien du tout, dans le désert de Gobi.
Alors, je peux faire un petit programme.
Alors, vous contactez Sarah Marquis.
Avis aux intéressés.
Le programme, voilà, pour une somme dérisoire, puisque c'est la passion qui l'anime. C'est pas l'argent. Elle vous fera
mais
le petit programme.
Je te prends avec, on fait un petit truc le soir sur un rocher.
Oh, mais je suis sûr qu'il y a une petite collaboration, une ou deux qui seraient possibles entre vous deux.
Ah, mais il n'y a pas de souci.
Sarah Marquis, vous, en 2014, élue aventurière de l'année par ce fameux magazine national. Je vais l'appeler National Geographic. Voilà. Hein,
on va y aller. National Geographic.
Vous êtes parfaite.
Non,
une
bah
des 100
non.
femmes les plus influentes du monde. Non, évidemment qu'elle
évidemment,
le prononce bien.
Non,
évidemment
non,
qu'elle
la
le prononce
perfection
bien.
Perfection n'existe pas.
Non, mais il y en a qui en ont plus que d'autres.
Non, enfin, je suis désolée.
Moi aussi, je suis tellement désolée si vous saviez. Aventurière de l'année, c'est quoi ? C'est un aboutissement ou c'est juste allez.
Une validation ?
Une validation,
oui.
Ouais.
Je suis très fière de ce titre, en fait, quelque part, parce que je suis, en fait, en tant que femme,
oui.
Voilà. Mmh. C'est un milieu d'hommes. J'évolue dans un milieu d'hommes depuis des années. Et quelque part, une exploratrice, ça ressemble à quoi, en fait ?
Mmh.
Voilà. Et moi, j'arrive avec mes petits cheveux blonds, on me trouve cool, mais alors pas exploratrice du tout, à la base. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, j'ai une reconnaissance, mais il a fallu 25 ans. Avant, j'étais une bizarre qui marchait un peu partout, jusqu'à 30 ans. À 30 ans, j'ai commencé d'écrire, quelque part. Ça a commencé, le chemin était encore long, mais mm-hmm. j'ai commencé à écrire. Ma mission de vie, elle est très claire. Je suis ce petit pont qui relie la nature et les humains. Alors, des fois, je suis dans la nature, des fois, je suis ici. Et je m'adapte à chaque fois. Mais ce qui est important pour moi, c'est de parler de la nature, parce qu'on a tellement besoin de la nature. On parlait du manque de biodiversité, de la perte de la biodiversité. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est qu'on ne nous a pas expliqué ce que c'était que la biodiversité. Mais on en parle. Mais si vous posez la question autour de vous, on ne sait pas ce que c'est. Mm-hmm. Donc, pourquoi on s'inquiéterait qu'il n'y ait plus la grenouille verte dans une espèce de forêt tropicale ? Bon, on ne nous explique pas que tout est lié, c'est que mm-hmm. cette nature, elle est liée. On enlève les abeilles, une abeille, une sorte d'abeille, ça dérègle toute la chaîne.
Tout.
Et donc, automatiquement, cette biodiversité, chaque élément est important. Et nous faisons partie de cette biodiversité, je précise.
Bien sûr, nous sommes une partie.
Voilà. Et donc, en fait, chaque élément de cette biodiversité, autant les insectes que les éléphants sont importants. Mmh. Et quand on dérègle cette chaîne de biodiversité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mmh. Et ça commence à nous affecter.
Il y a un rapport d'experts qui a été mentionné par l'ONU et qui donnait un rapport qui était édifiant et alarmant, qui disait qu'il y avait en gros 1 million d'espèces animales ou végétales qui allaient disparaître dans la prochaine décennie.
Moi, la question que j'ai, c'est pourquoi On n'écoute pas ces scientifiques qui arrivent avec... Alors, on n'écoute pas les explorateurs, mais alors pourquoi on n'écoute pas les scientifiques? Pourquoi on réagit pas?
Parce que les intérêts financiers sont plus forts que tout. Et c'est là où ça devient dangereux pour nous, parce que notre survie dépend justement de cette biodiversité. Et nous, les citoyens qui sommes conscients de ça, on n'a pas vraiment de pouvoir de changer les choses.
Oui, mais si, moi je pense que justement, aujourd'hui on a ce pouvoir en tant que consommateur, puisque nous consommons, c'est-à-dire que en consommant un produit de Chine, alors moi je suis passée en Chine, je peux vous raconter ce qui se passe en Chine, c'est la production, la surproduction, la pollution des eaux est polluée par les vêtements qu'on achète, par les vêtements que eux achètent, c'est nos vêtements qui polluent les eaux là-bas. Donc on est autant responsable de ce qui se passe en Chine, en Inde.
Je suis d'accord.
Voilà, donc c'est les pays qui polluent le plus au monde. Et en fait, c'est pas ces petits pays là au fond coincés qu'on connaît pas trop. Non, c'est nous. Donc consommons intelligent, peu, moins, vivons plus simplement, rigolons, allons danser et chanter et arrêtons d'accumuler des objets qui servent à rien.
On va finir la mission avant d'aller danser et chanter. Mais...
C'est pas sûr.
À tout moment, ça peut s'arrêter.
Bah,
ça
nous, on
peut
y
danser.
Va.
Angélique Kidjo, vous venez nous voir aujourd'hui, mai 2019, pour l'excellent album Célia, l'hommage à Célia Cruz. Alors, qui est Célia Cruz?
Célia Cruz est une chanteuse afro-cubaine qui est partie de Cuba sous le règne de Castro, parce que pour elle, la liberté, ça vaut le coup d'aller partir en exil, comme pour moi quand je suis partie en fuyant la dictature communiste de mon pays. Et il y a des personnes qui nous ont montré que ce pourquoi on vit et qu'on prend pour acquis, il faut le préserver, la liberté. Et quand on la préserve pas, si quelqu'un met la main sur votre liberté, pour la reprendre, cette liberté, c'est compliqué. Et ce qu'elle a voulu faire de toute sa vie, c'est être dans la positivité. Ce n'est pas « je suis exilée, je suis triste ». Non, elle a subi le racisme, on l'appelait café au lait. Et la réponse qu'elle a donnée à tout ça, c'est « asuka », qui veut dire le sucre. Donc,
sucre.
Si moi je suis café au lait, je ramène le sucre. Mais le sucre, ce n'est pas un mot anodin. D'abord, quand elle dit « asuka », c'est pour nous inviter à aller célébrer la vie. Tout moment, c'est important. Et la deuxième sous-entendue de ce mot-là, c'est à cause du sucre que l'esclavage a été installé. Parce que les Occidentaux avaient besoin de sucre, ils ont découvert le sucre. Et qui c'est qui peut travailler pour qu'ils aient du sucre gratos sans payer le travailleur? C'est les esclaves qui venaient d'Afrique et le tabac a suivi. Donc, pour moi, rendre hommage à cette femme-là, c'est célébrer aussi son africanité. Dès qu'elle a commencé sa carrière, elle a commencé à chanter les orishas, c'est-à-dire les dieux Yoruba. Et pour moi, c'est incroyable que cette culture qui est partie forcée de l'Afrique survivre autant. Et c'est là où la mémoire humaine, elle est importante et fantastique. On a voulu faire oublier aux esclaves d'où ils viennent, et cette culture est restée. Et c'est là l'Africaine, c'est ça que j'ai voulu faire. La ramener en Afrique, la faire passer par le Sahara, l'amener en Éthiopie, l'amener en Égypte, partout elle n'a pas pu y aller, avec des instruments de ces pays-là, dans l'arrangement qui a été fait par David Donatien, qui est le producteur de cet album, qui a fait un travail fantastique justement pour m'aider à faire ce voyage-là, avec Tony Allen à la batterie, les Gangwe Brass Band du Bénin, Michel Ndenge Oshelo à la basse, et plein d'autres musiciens, et Amen, le guitariste qui vient du Togo. Donc moi, j'ai voulu, comme d'habitude, créer un village autour de mon travail pour amener tout le monde dans ce village en disant hey, nous sommes tous africains.
Alors depuis tout à l'heure, on écoute évidemment des extraits de votre album. Là, c'est Yemaya.
Yemaya, eh, oh, lolo, ah, oh, oh, Yemaya.
On est parti.
Dommage, là c'est dommage qu'on n'ait pas l'image parce qu'on avait en même temps Angélique Kidjo qui dansait sur Yemaya. Allez, Toro Mata.
Toro Mata, rumbambero et Toro Mata, Toro Toro. Toro Mata,
toro mata, un bambero ai toro mata. A color no le permite, a se le acchitia pincincia ai toro mata, toro, torito. A color no le permite, a se le acchitia pincincia ai toro mata, toro, toro, yeah.
Celia Cruz, de son vrai nom Ursula Hilaria Celia Caridad de la Santissima Trinidad Cruz Alfonso.
Mais c'est, moi,
vous avez vu, c'est mieux Celia.
J'ai un nom à kilomètre, mais elle aussi.
Quelle a été son influence? Parce qu'elle n'est pas hyper, hyper connue. C'est vous là, qui l'a portée là.
Ah non, elle est, Celia, elle est connue sur la planète entière. C'est un truc de fou. Depuis que j'ai commencé à faire Celia, il n'y a pas un endroit où j'ai été où les gens me disent Celia qui? Elle a réussi, en partant de Cuba, à venir aux États-Unis, malgré le racisme, malgré tout, elle a réussi à lier toutes les formes de musique.
Tout emporté sur elle.
C'est le jazz, tous les musiciens.
Tous les plus grands salseros, Tito Puente, Willie Colon.
C'est un truc de dingue. Parce
d'immenses musiciens.
Mais la salsa, comme le monde explorateur, il n'y a que des mecs. Et elle est arrivée, avec la chanson Kimbara. C'était une grande claque qu'elle a filée au mec en disant « réveillez-vous un peu, les femmes peuvent faire de la salsa aussi. »
Il y a très peu de salsera, si j'ose dire.
Non, il y en a très peu. Du calibre de Celia, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on l'appelait la reine de la salsa, parce que c'est vraiment une reine. Dans sa façon d'être avec les gens ordinaires, elle est toujours disponible. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle ne me connaissait pas, elle m'a offert sa scène. Elle m'a dit, vas-y, viens chanter Kimbara avec moi. Alors que mon Kimbara, c'était du yaourt total. Je ne comprenais rien du tout. Je chantais n'importe quoi. Mais pourtant, elle m'a dit, garde ça, va sur scène, prends le micro. Son mari, qui était le chef d'orchestre, a dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle lui a dit, toi, tu te tais et tu joues. Alors, il a joué. Et moi, je me suis foutu la honte toute seule. Et puis après, j'ai dit, bon, je vous rends le micro, vous allez faire votre histoire. Moi, je me casse ici. Mais c'est ça, Celia, c'est la possibilité, les possibilités sans fin que nous avons en tant qu'être humain. Nous avons trop peur souvent du quand dira-t-on, de comment la personne... Il faut vivre sa vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Une fois qu'on a compris ça, moi j'ai compris ça, j'avais 12 ans, ça a été terminé. Ma grand-mère m'a dit, tu ne peux pas aimer tout le monde ne peut pas t'aimer. Tant qu'on parle de toi, même si c'est un mal, tu te tais, tu dis amen.
Dites amen à Celia, qui est disponible depuis en gros 3 semaines chez C Universal Music. Un hommage formidable à Celia Cruz et qui est signé la formidable, la fantastique, l'influente, puisque c'est le Guardian qui le dit, Angélique Kidjo. Sarah Marquis, mai 2019, j'ai libéré le tigre chez Michel Lafon, traversé sud-nord de la Tasmanie. Qu'est-ce qui vous fait marcher?
Je pense mon amour profond et indescriptible pour l'amour de ma vie qui est la nature.
Ouais.
Voilà. Et de l'humain, parce que en fait, plus je marche, puisque j'ai passé la moitié de ma vie dans une tente à dormir sur la nature, le dos collé à la terre, je crois que plus je marche, plus j'aime les humains. Plus je suis humaine.
C'est moins vous les voyez, plus vous les aimez, c'est ça?
Mais plus je...
Elle n'a pas dit ça.
Merci.
Mais elle part toute seule en mission.
Oui, mais il y a quelque part quand on est seul...
On a pas besoin de tout le temps, vous les mettre.
Mais qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, mais ils nous fatiguent, non?
J'adore. T'es trop chou. Je pense qu'en fait, le fait d'être dans la nature, en fait, il y a une espèce d'écho comme ça de mes pas qui arrive sur la nature, qui arrive sur les arbres, qui arrive sur les rochers, et puis qui me revient. Je suis face à personne. Je suis, en fait, moi, en face de mes petits soucis, et bien de mes limites, de mes capacités à affronter ce qui se passe devant moi. Et le jour où j'ai compris qu'il n'y avait rien à affronter, mais qu'il y avait tout à découvrir, eh bien, et je suis tombée en amour avec ce que j'avais à l'intérieur. Je suis tombée en amour avec moi-même, avec mes limites, ma vulnérabilité. Puis plus j'ai compris qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait que des petits... Il n'y avait pas des murs comme on nous les a appris dès l'enfance, des blocages, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Non, il y a d'autres portes, il faut ouvrir la porte, et puis il y a un autre niveau, et puis on arrive à un autre niveau, et on arrive dans un autre univers, il faut juste s'adapter, et on continue. Et la curiosité fait que moi, maintenant, une petite fourmi me fascine. La simplicité, les couleurs, les mouvements, tout est lié.
Quand vous manquez de marcher, je crois que ce sont des serpents-tigres qui sont hyper dangereux, vous excusez presque d'avoir effleuré le serpent
et
de l'avoir dérangé.
Complètement.
C'est des démarches qu'on n'a pas du tout, nous.
Non, mais ça, c'est parce que après avoir passé autant de temps dans la nature, on comprend que je suis toujours sur le territoire, dans la maison de quelqu'un, sur le territoire de quelqu'un. Mmh. Et le fait de lui expliquer mentalement que je suis que de passage et que je m'excuse, il va me laisser tranquille. Et c'est une technique qui est prouvée 100%, je suis encore vivante. J'ai fait cette technique avec les grizzlies, avec les pumas, avec les mountain lions, avec tous les animaux dangereux de cette planète. Et quand on arrive à comprendre qu'un animal n'est pas, c'est pas un animal sauvage, c'est un être qui comprend la vie autant que nous on la comprend, et qui a juste une autre forme extérieure, eh bien, les choses deviennent
plus simples.
Plus simples, et puis on arrive à un degré de compréhension, ce qui nous entoure, avec beaucoup plus de respect. Et dans mon livre, on retrouve cette gratitude à travers deux petits mots.
Quand vous dites merci, merci, voilà. Qui remerciez-vous dans les moments de grâce, de plénitude,
oui,
ou de répit,
l'univers,
ou face à la beauté?
Et pour en revenir au héros, le héros du livre, ce tigre.
Oui.
Parce qu'il y a vous, il y a aussi
tigre.
Ce tigre. Alors,
ce tigre que
qui vous fascine.
Mais complètement, ouais.
Alors racontez-nous, c'est qui ce tigre? Il vivait à quel moment? Il vivait à quelle époque? Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il y a des indices? Parce qu'à un moment, vous le dites. Alors, c'est votre côté animal qui dit, alors j'espère que je ne vais pas, que je divulgue pas trop, mais c'est, vous l'avez senti.
Voilà, alors...
Vous dites, je l'ai senti.
Voilà.
Vous avez lu des choses sur l'odeur particulière qui dégage cet animal, et vous dites, il a été à côté de moi à un moment, parce que j'ai senti sa présence. Et vous avez cru voir une forme dans l'eau, mais vous n'êtes pas sûr.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant de partir à la rencontre du tigre de Tasmanie, eh bien, j'ai fait des recherches énormes. Pour être très clair, le tigre de Tasmanie était... On l'a chassé, surchassé. Le gouvernement a massacré
ces primes.
Voilà, a donné des primes pour la peau de chaque tigre de Tasmanie, puisque ce tigre avait compris que les petits moutons des fermiers, c'était beaucoup plus facile à attraper que les kangourous qui allaient très vite dans la forêt. Donc, ce tigre a été en voie d'extinction dès 1936. Mais après ça, il y a des gens qui l'ont vu. Et puis, dans les témoignages, en fait, des gens qui ont vécu avec ce tigre dans la forêt, avant 1936, dont les chasseurs de tête, et eux, ils en avaient peur, en fait. Et
dire que non, mais c'est une bête qui est dangereuse. Non, mais si, expliquez.
Rien n'est dangereux dans la nature à part l'homme. L'homme est dangereux.
C'est l'homme le plus grand danger de la nature.
J'entends, mais le tigre de Tasmanie se fait la taille d'un loup, si j'ai bien tout compris. Voilà, il peut ouvrir la gueule à quasi 180 degrés.
Et qu'est-ce qu'il fait sur son territoire? Il va te manger.
Et il peut déchiqueter tout ce qu'il veut en un coup de gueule.
Voilà,
c'est ça.
Cool. J'adore ça.
Et puis, cet animal, en fait, selon les choses que j'ai pu collecter comme information, eh bien, souvent, il vous suit pendant des jours et vous n'en êtes pas conscient.
Donc
il va vous poursuivre pendant des jours, il va vous traquer quelque part. Et puis tout d'un coup, la seule option que vous avez de savoir qu'il est autour de vous, parce qu'il ne va pas laisser de traces, il n'a rien laissé, c'est l'odeur. Justement. Alors, est-ce que vous avez déjà senti un sanglier dans la nature?
Ah ben, je suis un Cantalbert depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. La même chose.
Non, mais il a son petit pull vert, là. Il fait très printemps.
C'est vrai.
Non, voilà. Alors, l'odeur d'un sanglier, c'est vraiment... Il y a du musc. Ça croche au fond de la gorge. C'est vraiment...
C'est lui, hein.
C'est vraiment...
Ah, ça, c'est lui. C'est acre, même. Hein.
Alors, il y a le mot acre dedans qui ressort aussi.
Ouais, tu le connais
bien.
Voilà,
c'est ça. Voilà. Alors, c'est ça, mais en foisson.
Donc, et voilà, une expédition qui a failli très mal se terminer, parce que vous avancez.
J'avance. En fait, il y a des buissons risotto qui sont, en fait, c'est un type d'arbre qui grandit à la verticale et qui tombe au bout de peu de temps. Et la branche qui est tombée ou le tronc qui est tombé repousse à la verticale et les branches à la verticale retombent et repoussent et retombent. Et ça fait une espèce de toile d'araignée végétale, impénétrable ou du moins avec beaucoup d'efforts. Et ces buissons horizontaux se trouvent sur mon passage et donc je choisis de tout essayer, donc de naviguer sur la rivière, c'est pas possible. Et je décide en dernier lieu d'essayer de monter sur la crête pour m'éloigner un petit peu de ce méli-mélo qui est au bord de l'eau.
Mais extricable presque. Ouais.
Voilà, et je monte sur une crête et je trouve que c'est un petit peu plus facile malgré tout. Et à un moment donné, je me retrouve devant une espèce de trou et je comprends à ce moment-là que je vais devoir descendre jusqu'en bas, puis remonter tout le long de l'autre côté. et ça va me prendre 2 jours de plus. Et là, je peste, et là, je suis pas contente, et là, j'essaie tout ce qui est possible pour ne pas faire ça. Puis je vois bien que c'est inévitable, exactement. Et donc, je descends, et puis à tout moment, je vais au bord de ce ravin, et je regarde en bas pour voir l'avancée que j'ai fait. Et là, au moment où je me dis ça, je regarde en bas et l'inévitable arrive, c'est-à-dire que le sol s'effondre sous mon
poids. Sous les pieds, se dérobe.
Tout part. Donc les rochers, la terre, l'humus, j'ai encore cette odeur dans le nez de cette terre en décomposition, et les arbres partent avec, et Sarah Marquis part avec. Je vais devoir ramper pour sortir de cette gorge avec le côté gauche qui ne fonctionne plus.
En tout cas, c'est une aventure qui est passionnante. Là, on est pris par le temps. Voilà. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais J'ai réveillé le tic, c'est chez Michel Lafon, la traversée de la Tasmanie du sud au nord, racontée par Sarah Marquis, l'exploratrice au National Geographic. Et chose pour les choses dues, est-ce que vous nous feriez l'amabilité, l'honneur, Angélique, de nous chanter un petit quelque chose, s'il vous plaît?
Je vais essayer.
Oui. Oh là 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 là, on attend ça avec une grande impatience.
Immensa région arenosa, hermana de Egipto y Arabia, infierno de sol y espejismo, Sara, eres tú, eres tú. Sara, aquí va mi caravana, estéril tierra africana, cuna en que reposa el sol. Sara, templo de la diosa Omara, flor que el desierto quemara, sacerdotisa de amor. Allá, el sol comienza a morir, estación favorita, y la luna parece un turbante de plata perdido de Alá.
Angélique Kidjo dans Vous les femmes sur France Inter. Bravo, bravo, bravo. Merci encore.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Étant sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Tellement bien de vous avoir, mesdemoiselles, vous méritez bien les cadeaux, et c'est l'affaire d'Alberto, on y va vite fait.
Alors, très rapidement pour vous, Angélique Kidjo, le tome 22, très réussi, très drôle,
des billes de chon
de Christian Binet, que j'aime beaucoup. Les billes de chon relancent leur coupe, c'est
alors
le titre.
Alors là, ça va être compliqué.
La question vous plaira.
Mais comme la couverture, je comprends. Hein.
Le changement est-il toujours à l'initiative des femmes? Pose les bidochons comme question. Voilà. Et
un cadeau pour Sarah?
Oui, pour Sarah Marquis. Alors, une BD, Liberty Bessie, chez Glénat. C'est une aventure qui a le ciel pour théâtre. C'est magnifique. Aux USA ségrégationnistes en France dans les années 40. C'est inspiré des pilotes afro-américains qui se distinguèrent pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une très, très belle BD. J'adore. Les auteurs, c'est Gian, Jean Blaise, Saint-Dizier et Vincent. C'est chez Glénat, Liberty Bessie. Très bonne
L'émission
BD.
Est terminée aujourd'hui. Nos invités étaient Sarah Marquis, exploratrice au National Geographic, qui a après avoir traversé la Tasmanie du sud au nord, raconte son périple dont J'ai réveillé le tigre chez Michel Lafon. Angélique Kidjo, l'album Celia, album hommage à Celia Cruz, la reine de la salsa, c'est chez Universal Music. Angélique est en tournée, évidemment, toutes les dates sur le site de l'émission. Merci Albert Algou à la réalisation de cette émission, justement Marie-Annick Rimbaud, attachée de production Christine Kern, qui est également à la photographie, à la technique Michel Bézikian, programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront autre grande exploratrice, Isabelle Autier, qui viendra nous voir. Autre exploratrice de l'humour.
Quand elle vient, on n'est pas là. Non, mais c'est pas sérieux.
Eh bien, revenez, c'est la semaine prochaine. Il y aura également Charline Vanhoenacker. Au revoir, bon dimanche à tous à l'écoute de France Inter, bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 6h57.